notre invitée qui est une des rares réalisatrices à avoir, dans un monde de réalisateurs, à avoir passé la barre des 3 millions d'entrées avec son film LOL. Elle est également écrivain, productrice, elle sait mettre en valeur les femmes, leur dire comme tu es belle, qu'elles soient anonymes, aussi légendaires que Dalida. C'est une femme engagée, fervente, défenseuse des droits des femmes. On lui doit de nombreux ouvrages et documentaires sur la condition féminine dans le monde. Aujourd'hui, elle vient nous présenter un très joli film, son nouveau film Mon bébé. Lisa Azuelos est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour Lisa Azuelos.
Bonjour.
Alors vous venez vous présenter votre film Mon bébé qui sort tout à l'heure, l'histoire d'une mère dont la petite dernière quitte la maison. Et si je vais voir le film avec ma fille, vous croyez que ça lui donnera envie de quitter également la maison?
Attends, ils sont nés comme ça quoi, c'est atroce. Ils sont programmés, c'est un peu comme les machines à laver qui sont programmées pour ne durer que 3 ans pour qu'on en rachète d'autres. Les enfants sont programmés pour partir. Et c'est atroce.
C'est un film qui est drôle et émouvant à la fois. Vous aviez conscience qu'il était si émouvant en le faisant?
Oui, bah déjà, pendant le tournage, je pleurais pendant les scènes. Donc j'ai compris qu'il se passait un truc. Hein.
Mais il est émouvant parce qu'il est sincère.
Oui,
hein,
très sincère.
Ah bah, j'ai mis tout ce que j'avais dans mon ventre, je vous l'ai mis dans l'écran. Ouais. Voilà, comme ça, il ne reste plus rien. Je peux repartir à zéro. Moi, j'ai vidé la corbeille.
Et Sandrine Kiberlain est exceptionnelle. Elle est tellement naturelle dans le film. Oui. On a l'impression, par moments, que c'est un documentaire tellement... On a l'impression que les acteurs improvisent. Ils ont improvisé vraiment ou alors...
Bah, en fait, c'est un documentaire sur moi. Mais j'ai eu la bonne idée que quelqu'un me joue mieux que moi. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est un peu mon biopic.
À un moment, vous rencontrez un homme dans les toilettes, ça m'est jamais arrivé, il est canon.
Bah, moi j'en ai rencontré plein.
C'est une histoire vraie ça. Ouais,
mais tout est vrai.
Dans les toilettes, vous avez rencontré un homme.
Mais vous savez, les hommes sont partout, hein. C'est la bonne nouvelle aussi. Hein.
Ce qui se passe, Anne, c'est que tu vas pas assez aux toilettes.
Ouais, c'est ça. Sans
doute. Attends, je bois beaucoup d'eau.
Elle est dans un bar avec ses copines, elle vient de divorcer, elle parle de mecs. Non, elle va aux toilettes et il y a un mec qui lui dit...
Elle parle de cunnilingus, hein, ouais. Donc déjà
ça attire les mecs.
Il entend la conversation,
il
c'est comme ça qu'il
dit je vous ai entendu parler avec vos copines.
On m'a toujours dit que moi je pourrais être lesbienne.
C'est arrivé ça, vraiment?
Parce que
je me suis dit c'est exagéré.
Non, j'ai peut-être redialogué, mais oui, je suis allée aux toilettes et il y a un mec qui m'a dit ah, tu me plais, machin, etc. Je vous dirai pas ce qui s'est passé derrière.
Mais si, on veut tout savoir.
Mais oui, effectivement, tout est vrai. Quoi. Moi, c'est très difficile de dire non finalement.
C'est vrai.
Bah oui.
Bah, vous habitez dans quel coin?
C'est très difficile de dire non aux hommes. Si.
C'est très difficile de dire non à l'amour.
Lisa Azuelos dans ce film Mon bébé, je trouve une manière extraordinaire de filmer les adolescents avec une véracité incroyable.
C'est ma passion, les ados.
Ouais, c'est vrai.
Et puis on vous voit arriver, ils fument, vous dites c'est pas la Jamaïque ici. Enfin, c'est.
Ouais. Bah oui, parce que.
C'est une vision très réaliste des adolescents d'aujourd'hui aussi.
Bah, beaucoup d'adolescents quand même fument un petit peu de cannabis.
Ah bon? Première nouvelle.
Donc Benach est encore adolescent.
Les adultes aussi d'ailleurs, puisque nous étions des adolescents. Hein, donc voilà.
Non, mais même sur les rapports amoureux entre les adolescents, c'est très bien vu. Et l'histoire d'amour est très mignonne entre.
Mais je suis un peu la confidente de beaucoup d'adolescents.
Qui viennent vous parler?
Qui viennent me parler. Moi, j'en ai eu, comme j'ai 3 enfants, ils sont tous été adolescents. Maintenant, ils sont un tout petit peu plus grands. Mais j'ai fait LOL. Je veux dire, l'énergie adolescente est quelque chose qu'on ne devrait jamais perdre. Et après, on joue à être des adultes et c'est chiant. Alors que quand t'es ado, c'est jamais chiant. Et du coup, moi, je suis... Pardon, j'ai dit des gros mots.
Non, mais vous avez raison.
Mais il y a une insouciance dans l'adolescence. Voilà.
Mais cette insouciance-là, en fait, on ne devrait jamais la perdre. Et c'est pour ça que je les adore.
Vos enfants ont vu le film, les Azuelos.
Oui.
Elles ont pleuré, j'imagine. Ils ont pleuré.
Bah, déjà, ma fille joue
dedans.
Je parle des autres enfants.
Mais les autres enfants, oui, ils sont très touchés. Et surtout, ils sont très touchés par la période où ils sont petits. Parce qu'évidemment, ils s'en rappellent pas. On se rappelle très peu de cette ambiance de quand on était petit. Et pour eux... Ça les a ramenés dans ce qui fait qu'aujourd'hui, on est une famille, en fait. Une famille, ce n'est pas un hasard. C'est du temps, c'est de l'habitude, c'est de l'amour. Et on ne peut pas décider qu'on est une famille. Et là, ils se sont rendus compte que tous ces petits moments de rien... Parce qu'en fait, le film parle de ces petits moments de rien aussi. Bah, c'est ça, finalement.
Quand il y a une très jolie scène où vous regardez votre bébé à côté de vous. Et...
Oui, bah, ça, je les ai beaucoup regardés. Hein. Ça, c'était ma chaîne de télé préférée à une époque.
Et depuis que vous avez un smartphone, vous les filmez tout le temps
tout
dans
le
la
temps,
vie.
C'est atroce.
Vous allez en faire un film pour eux plus tard ou...
Bah en fait, j'ai pris tous ces bouts-là et j'ai fait mon bébé. Ouais. J'ai repris des scènes qu'il y avait dans mon iPhone et je les ai refait en fiction.
Mais on va parler que de bébé là, parce qu'il y a deux...
J'imagine que quand on a passé tant de temps à faire un film, on a le trac le jour de la sortie.
Ah bah c'est atroce. Pire jour en fait.
C'est un accouchement.
Ouais, mais l'accouchement, tu sais que t'as un bébé à la fin, quoi, quand même, et qui va rester chez toi longtemps.
Ouais.
Là, en fait, tu donnes un truc que t'as adoré à des gens que tu connais pas. Et
mais c'est tellement émouvant, je suis sûre que ça va toucher les gens, c'est pas possible autrement.
J'espère, oui. Je pense que ça va les toucher. Après, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est de faire venir les gens au cinéma. Moi, ma petite inquiétude, parce que faut quand même, je connais bien les ados, ils ne vont plus au cinéma. Hein.
Ah
il
bon
s'est passé un truc en disant quand même, bah oui.
Oui, mais moi, je l'ai dit à ma fille qu'on est allé ce week-end.
Ah bah voilà.
Et elle est d'accord.
Ah bah c'est, voilà, j'espère que les gens viendront au cinéma. Voilà, c'est tout. Après, une fois qu'ils sont dans la
salle, de toute façon, LOL,
je garantis le...
Mais LOL, ça a été vu par les mères et par moi, j'y avais été avec mes enfants.
Ados,
donc
oui.
C'était un film très familial. Donc
de toute façon, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'avoir le transgénérationnel, même s'il y a les grands-parents, puisqu'on s'occupe aussi... du papa de Sandrine dans
avec
le
Patrick
film.
Ouais.
Ouais.
Par contre, le mari, Yvan Attal, il est assez maltraité. Hein.
Bah, c'est-à-dire que il est assez maltraitant aussi.
Vous
hein.
vous défoulez personnellement là ou...
Non, pas du tout.
Un
non,
peu
non.
quand même, non.
Non, 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 non. Je me suis plus défoulée dans d'autres films. Hein. Là, c'est un film de réconciliation.
Ouais.
Oui.
Bon, on le voit pas beaucoup quand même. Il est pas...
Non, mais parce qu'en fait,
c'est pas le sujet.
C'est pas le sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, y a beaucoup de gardes alternées. Donc il y a beaucoup d'hommes en fait qui ont une semaine sur deux les enfants. Moi j'ai décidé de mettre la caméra chez la maman, mais peut-être qu'il y a des hommes qui et que ça intéressera de mettre la caméra chez les papas. D'ailleurs il y a eu des films qui parlaient de ça. Donc voilà, moi je m'occupe un peu des femmes, c'est vrai, mais j'empêche pas les garçons de faire des films sur les papas. Hein.
Mais d'ailleurs, vous dites que...
Plus ça les intéresse pas, ils aiment la guerre.
Mais c'est très marrant aussi la scène où elle pète les plombs parce qu'elle a perdu son portable. Ouais. C'est une vraie crise de nerfs.
Ah ouais.
Et moi, je me suis reconnue. Parce que des fois, je suis énervée comme ça.
Bah oui, mais moi, je préfère qu'il m'arrive d'autres trucs dans la vie que de perdre mon portable. C'est ce qui peut arriver de pire. Enfin, maintenant, j'ai le fameux cloud... qui fait que quand je le perds, je le perds pas.
Ouais, ouais.
Voilà, et je perds que des sous. Quoi.
C'est pratique.
Et l'héroïne donc découvre à cette occasion, elle perd son portable, que tous ses enfants l'ont géolocalisé depuis des années, elle le savait pas. C'est arrivé ça en vrai pour vous?
Ah bah tout le temps. C'est... J'ai compris que mes enfants me géolocalisaient pour savoir à quelle heure je rentrais, pour ranger l'appart ou pas d'ailleurs.
Ouais. Parce voilà. ça c'est bien parce qu'il y a plein de parents qui croient que ça marche que dans un sens.
Mais oui.
Alors qu'en fait non, ça marche dans les deux sens.
Ah oui, ça marche dans les deux sens, ils nous traquent.
Tu penses que tes filles te pistent aussi, Anne?
Ben, j'ai pas.
Faut regarder.
Ça m'a ouvert des horizons. Je vais me renseigner. Vous dites aussi dans un interview, Lisa Azuelos, que vous, à un moment, votre fille est vraiment partie au Canada, donc c'est inspiré d'une histoire vraie, et que vous filmiez tout le temps votre fille. Elle vous disait, maman, arrête, t'es flippante.
Oui.
Elle vous a dit ça pendant le tournage aussi?
Non, parce que là, c'était son métier de comédienne. Donc
parce que là, vous avez donné de l'argent pour qu'elle se laisse filmer, en fait.
Voilà. J'ai été obligée de la payer pour ça. C'est compliqué, quoi.
Quand vous écrivez le film, c'est pour elle?
Non, en fait, quand j'écris le film, c'est d'abord pour notre famille, mais c'est surtout pour toutes les mamans, en fait, qui font ce travail souterrain dont personne ne parle vraiment, ne reconnaît. Même elles, surtout, ne se reconnaissent pas dans ce travail intense qu'elles font auprès des enfants, d'amour, de tartines, de réveiller le matin, tous ces petits trucs, on a l'impression que c'est rien. Et en fait, c'est énorme. Et moi, je voulais dire aux mamans, tout ce que vous faites, c'est énorme. Arrêtez de croire que vous ne faites pas assez.
Très beau message.
Voilà.
À un moment dans le film, Sandrine Guimarães dit « Comptez pas sur les mecs, il n'y a rien à en tirer ».
Ah non?
Bah si, un personnage qui dit ça.
Ah bon?
Oui.
Ah non?
Ah bon?
Ah non,
vous l'avez vu votre film?
C'est exactement le contraire de ce que je pense.
Ah.
Ah oui, au contraire, je pense que l'un sans l'autre, on n'est pas grand chose.
D'accord, vous êtes une femme pour les hommes, pas les hommes.
Oui, oui, oui. Ah oui, vraiment. Mm. Bah, je pense qu'on a tellement de choses à faire ensemble. Et surtout,
niveau. Ah oui, ça, c'est sûr. On a des choses à faire.
J'ai deux, trois idées, j'en parle dans le film. Hein. Mais c'est surtout qu'on est en 2019. Il n'y a jamais aucune société qui s'est posée, qui a dit OK, visiblement, on a du mal à se comprendre. On a du mal à vivre ensemble sereinement, alors qu'on a plein de trucs chouettes à faire ensemble. Comment on peut faire pour que ça roule? On n'a jamais réfléchi
alors,
à ça.
Le truc, c'est que le cunnilingus ne peut pas tout régler.
Si, je suis sûre. Ouais, bah, moi, je pense qu'une sexualité épanouie peut tout régler. Alors là,
je suis de votre combat.
Hein,
ben
voilà.
Allez, on y va. Révolution.
Bon. NH a des choses à vous dire, les amis.
Oui. Du coup.
Je dis oui. Ok.
Oui. Et aujourd'hui, c'est mercredi. Qui dit mercredi dit sortie ciné. Qui dit sortie ciné dit film. Qui dit film dit réalisateur. Qui dit réalisateur dit donc qu'elle commence à être longue cette phrase d'introduction. Hein, Lisa Azuelos, enchantée, Ben H, comédien au chômage. Excusez-moi, il y a quelque chose qui me... Je suis désolé d'interrompre comme ça, il y a quelque chose dans ma poche qui me... Oh, c'est mon CV de comédien sur clé USB. Oh, le hasard. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est dingue. Comme le par hasard, le jour où on reçoit une resette. N'importe quoi. Nous ne sommes pas là pour parler de votre prochain film, Lisa. Parlons déjà de celui-ci, Mon bébé, que j'ai eu la chance de voir. Je suis donc d'autant plus ravi de rencontrer ce midi la réalisatrice de ce film qui a fait valser toutes mes certitudes. Hier encore, à cette heure-là, je rêvais uniquement de liberté, d'histoire sans lendemain, faisant de ma vie une succession de conquêtes sans prise de tête ni engagement jusqu'à crever un jour d'une MST seule et sans famille dans un bordel des Philippines. Oui, hier encore, à cette heure-là, ma vie était toute tracée. Et puis, Lisa Zuelo, j'ai vu votre film. Et la révélation, en fait, mon vrai rêve dans la vie, c'est de devenir maman. Quand je sors d'une comédie romantique, généralement, j'ai envie de tomber amoureux. Mais quand je suis sorti de votre film, j'avais envie, pour la première fois de ma vie, d'avoir des enfants, de les voir grandir. J'avais l'intime envie de connaître ce sentiment paternel, cet amour filial qui ne m'avait jamais pourtant intrigué plus que ça. Je les ai imaginés, un garçon, puis une fille. J'ai pensé à des prénoms trop mignons. Je me voyais les promener dans le parc, leur raconter des histoires, les forcer à regarder tous les sketchs d'Anne Romanoff et ceux dès l'âge de 3 ans. Et alors que je fantasmais d'une vie de papa avec option pullover sur le polo, bim, sur le retour du cinéma, j'ai pris le métro. Et en même temps qu'une classe de CM1 hyperactive, ce qui a subitement fait ressurgir mon amour de la capote. Mais il m'a sincèrement bousculé, votre film, Lisa Zuelos, vraiment. Je ne sais pas s'il m'a seulement projeté dans une hypothétique vie de père ou s'il m'a aussi fait regretter de ne pas avoir eu Sandrine Kiberlin comme mère. Elle est très bien ma mère, mais Sandrine Kiberlin, mon Dieu !
Oh, le complexe d'Oedipe.
Mais je fais un complexe d'Oedipe à vie, là. C'est pas possible. Moi, c'est loin d'être comme ça, hein, dans ma famille, par rapport à votre film. Faut reconnaître que moi, quand je suis parti de la maison, ça a pas trop bousculé ma mère. Hein, je me souviendrai toute ma vie de ce soir, elle m'a appelé. Ben, tu rentres dîner ce soir? Mais maman, j'ai déménagé. Ah bon, c'est nouveau ça? Bah non, maman, depuis 3 mois quand même. À la différence de votre film, Lisa Zuelos, ma mère, c'était pas le genre à me filmer pour conserver des souvenirs de moi vivant à la maison. Mon père, à la rigueur, aurait pu le faire. Il aimait bien lui filmer des petits trucs. Mon père, il aimait les fêtes de famille, les week-ends, quand ma copine venait à la maison aussi. Hein. À un moment, je lui ai même dit, un peu comme votre fille, hein, je lui ai dit, papa, arrête de nous filmer, hein, c'est chiant. Il me dit, mais je nous fabrique plein de souvenirs, fiston. Ouais, mais là, ça commence à être gênant là, papa. Bah, pourquoi j'ai toujours fait ça? Oui, mais là, vu qu'avec ma copine on fait l'amour, c'est trop bizarre. Oui, c'est carrément trop bizarre. Ça, c'est la voix de ma copine. Tout ça pour vous dire que si mon bébé plaira à toutes les mamans et à toutes leurs filles, il plaira aussi à tous leurs mecs. Ce n'est pas qu'un film sur le rapport mère-fille, c'est un film sur le temps qui passe, souvent trop vite une fois qu'il est passé. Sur les souvenirs que l'on se crée avant qu'il ne soit trop tard, sur le moment présent, sur ce qui va nous rester, sur l'amour sous toutes ses formes. C'est universel, c'est très joliment fait, très brillamment joué. Et moi, j'ai plus qu'à commencer une petite thérapie. Merci, Lisa.
Merci beaucoup. Léa Landau a des questions à vous poser.
Allez,
Lisa Zuelos.
Oui, Lisa Zuelos. Alors, je profite de cette entrevue pour régler mes comptes déjà parce que je ne sais pas si vous en êtes responsable, mais depuis des années, à chaque fois que quelqu'un me dit comme t'y es belle, il y en a un autre à côté qui dit lol. Du coup, mon bébé, en ce qui me concerne, c'est pas pour tout de suite. Pour la peine, je vous ai préparé une interview et ta mère. Ah. Alors, Lisa Zuelos, vous êtes plus maman poule ou maman fouille? Attachante ou envahissante en vrai?
Non, je suis maman poule.
Maman poule, ouais, ouais. Ça se voit dans le film.
Mais j'ai beaucoup fouillé aussi dans les affaires de mes gosses.
Ah oui,
c'est vrai?
Bah oui. Ah, vous
pour
faites
trouver
ça
du cannabis?
Non,
c'est pas vrai.
Qu'est-ce que vous faites?
Mais c'est l'histoire de LOL. Hein. Je suis tombée sur le journal intime de ma fille, j'ai pas pu m'empêcher de le lire.
Ça se fait pas.
Bah non, c'est dégueulasse, mais ça m'a fait faire un film.
Tout le monde le ferait. Et le portable, vous regardez les portables?
Non, mais j'ai regardé à un moment, ils laissaient Messenger, leur Messenger sur mon compte.
Ouais, là, vous
donc
êtes obligée de regarder.
Tout. Bah oui,
c'est pas de votre faute.
Bah oui, c'était avant qu'il y ait des séries et Netflix. Ça me faisait ma série à moi.
Non, mais c'est vrai que dans Mon bébé comme dans LOL, la mère est ultra cool. Quoi. Donc elle fume
mais
des
je
joints.
Suis ultra cool.
Ouais, c'est ça. Ouais, oui, c'est donc vrai. Elle fume des joints dans LOL. Dans Mon bébé, elle laisse le petit ami de sa fille dormir chez elle. Ouais. Ça, c'est vous ou c'est la maman que vous rêvez
je
d'être.
Préfère qu'il dorme chez moi que je sais pas où. Quoi, ouais. En fait. Au moins chez moi, c'est confort. Quoi. Enfin... mais non, mais pourquoi faut-il rajouter de la douleur au fait que déjà, à cet âge-là, c'est compliqué de faire l'amour, tout ça. Autant qu'il soit bien, quoi.
Et mais vous aimez tellement vos enfants et vos filles.
Et vous arrivez, excusez-moi, à faire l'amour avec vos enfants dans la pièce à côté?
Quoi, quoi, ah bah,
non, je ne fais pas l'amour avec...
On arrête là.
C'était un homme, c'était un homme.
C'est l'émission, la plus déjantée de ma vie. Je tiens à le dire.
Mais oui, non, ça me fait jamais une vraie question, ça. Parce qu'elle a un appartement sur le même palier, elle a du mal. Donc, parmi ces trois citations au proverbe, lequel vous parle le plus, Lisa Zuelos? Napoléon Bonaparte disait « L'avenir d'un enfant est l'œuvre de sa mère ».
Il y a un proverbe juif qui dit « Dieu ne pouvait pas être partout, alors il a créé la mer ». Et des proches qui disaient « On reconnaît le rouquin aux cheveux du père et le requin aux dents de la mer
». Bah moi, j'aimerais toujours des proches. Hein.
Ouais. Voilà, quoi. Ah ouais. Quand vous étiez jeune, dans votre famille, c'était toujours les femmes qui faisaient tout, pendant que les hommes parlaient politique.
Ça, c'est quand je suis partie chez les séfarades, oui.
Ouais. Parce que votre papa était juif marocain,
oui.
C'est ça ?
Oui, oui.
Et donc, après, vous avez vécu avec lui de 12 à 20 ans ?
Oui.
Et là, vous avez découvert
un autre monde.
Culture, ouais, où les femmes...
Mais après, c'est un monde où c'est super joyeux, où la famille, ça compte énormément, où on vous nourrit tout le temps. Dès que tu dis un truc, c'est ta faim, mange. Enfin bon, bref, tout se règle par la nourriture. Donc voilà, c'est intéressant aussi. Mais c'est vrai que les femmes passaient des heures en cuisine et que les hommes mangeaient ça sans même leur dire merci. Et ce qui comptait, c'était de parler de politique, de pays dont on se foutait, où de toute façon, c'était tout le temps la guerre. Et moi, je ne comprenais pas. Je me disais, mais on ne passe pas 2 minutes pour dire aux femmes merci, comme ouais. C'est bon, comme tu as gentiment cuisiné pour moi. Et c'est de là qu'est né mon sentiment d'injustice que les hommes n'étaient pas forcément si intelligents et que nous, on devait fermer notre...
Qu'est-ce que vous a évoqué le mouvement MeToo, Lisa Gelos ?
Ah, il m'a évoqué plein de choses. Bah, déjà, moi, ça fait longtemps que je milite, donc tout à coup, je me suis dit, c'est fou quand même que ce soit un homme avec 10 viols qui a fait plus pour la cause des femmes que tous les mouvements qu'on a eus pendant des vingtaines et des trentaines d'années. J'ai trouvé ça dingue. Mm-mm. Franchement, je me dis, le monde est quand même monté à l'envers.
Il fallait peut-être un électrochoc et ça a été ça, en fait.
Oui, ça a été ça. Après, il faut savoir que, par exemple, depuis janvier, il y a 2 fois plus de femmes tuées par leur conjoint qu'avant. Donc, en fait, ça ne règle rien. Et ça ne règle rien. Pourquoi ? Parce que on peut pas... Les femmes veulent un pouvoir, mais le pouvoir féminin est peut-être un petit peu différent du pouvoir au masculin. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la fin du mouvement dominant-dominé. On l'a avec MeToo, on l'a avec plein de choses. Et en fait, on rentre dans une nouvelle ère où si on ne se met pas vraiment ensemble, on ne pourra pas du tout s'en sortir. MeToo, c'est un début, c'est pour dire, c'est un cri. Mais derrière le cri, il faut qu'il y ait des paroles. Et c'est pour ça que je m'occupe des hommes aujourd'hui et des adolescents. Parce qu'il y a beaucoup à faire du côté des hommes. Ils sont beaucoup plus perdus qu'avant. Et on va aller nulle part si les hommes sont perdus.
C'est vrai que moi, je ne comprends plus rien. Il faut absolument qu'on se parle.
Okay. quelle chanson vous parle le plus, Lisa Azuelos ? Celle-ci ?
Voilà.
Ou alors celle-ci ?
Je suis pas bien dans ma tête, maman. J'ai perdu le goût de la fête, maman.
Ou enfin celle-là.
Oh mon Dieu.
Alors Lisa Azuelos,
en fait moi c'est Si maman si, parce que c'est la chanson que on chantait tout le temps avec mes filles.
Ah ouais ?
Ouais. Donc c'est celle-là, mais j'aime toutes les autres.
Alors quelques petites questions rapides, votre plus gros défaut de maman, Lisa Azuelos ?
C'est sûrement d'être trop cool. Hein, oui.
Trop cool. Ouais. Votre plus grande qualité de maman ?
C'est d'être très cool.
Votre plus grande joie de mère, de maman ?
C'est toujours la naissance, en fait.
Ouais.
C'est quand même les 3 plus beaux moments de ma vie, c'est ça.
Votre meilleur conseil à donner à Anne Roumanoff, qui est aussi une mère beaucoup trop cool ?
Dès que tu sens poindre la culpabilité, tu sais que c'est faux.
Ah bon ?
Mais ouais. T'es génial tout le temps, en fait.
Ah bon ?
Mais ouais. Personne te l'a dit avant.
Parce que moi, souvent, je me sens coupable
mais
de
ne
pas être assez
pas.
Là. De pas être... Et du coup, je me fais exploiter.
Mais bien sûr, ils en profitent.
Mais c'est vrai, c'est tous fini. Les devoirs de sa fille.
Me too. Non, c'est fini, on ne se fait plus exploiter. Ça y est.
Ah ouais.
Ah ouais. Tout ce qu'on fait est bien. Ouais. Et quand ils ne sont pas contents, ils ne sont pas contents. C'est pas très grave.
Et quand ils ne rangent pas leur chambre ?
Ah, moi, je l'ai laissé dans leur bordel, j'en ai rien à foutre.
Ah ouais.
Cool. Par contre. Mais je ne peux pas être partout. Et s'ils veulent vivre dans le bordel, qu'ils vivent dans le bordel. Mais par contre, ils ne le foutent pas dans la maison. Mais leur chambre, c'est leur chambre.
Moi, ce qui me scandalise, c'est que, par exemple, l'autre fois, j'ai aidé pour un TPE.
Je comprends.
Bon, ça a duré 4 heures, il y avait 4 gamins, j'étais très gentille. Elle m'a dit « Merci maman, je vais te faire à manger ». J'étais touchée, ça n'arrive jamais. Et elle m'a commandé une salade sur Uber Eats.
c'est ça, c'est la génération où ils ne bougent plus de chez eux, ils appuient. Ça devient des cliqueurs, c'est pour ça.
Et je crois que c'était attention. Le geste qui compte.
Ouais, tu peux quand même au moins un jour dans ta vie faire un truc pour ta mère, quoi.
Mais c'était déjà pas mal. Moi, ils m'ont jamais proposé.
Surtout qu'elle l'a acheté avec ton fric.
C'est ça. Avec ton compte.
Et la dernière question, c'est qu'Anne Roumanoff va faire son premier film bientôt.
Ah, génial.
Est-ce que vous avez un conseil à lui donner ?
Pareil. te dire que t'es tout le temps génial.
Ok.
Et surtout, un metteur en scène, en fait, c'est quelqu'un à qui on pose des questions. T'as que des gens qui sont là pour résoudre tes problèmes, puisqu'ils sont le décorateur, etc., etc. Tout le monde est là pour régler tes problèmes, mais ils ont souvent beaucoup de questions. Quoi qu'il arrive, tu réponds. Même si tu te trompes, c'est
mais
pas
si
grave.
Tu sais pas.
Mais tu sais. Les rideaux rouges ou bleus ? Bleu. En fait, tu t'en fous. Mais voilà. Le gars est content, toi aussi. Voilà.
Il voilà, faut jamais dire je sais pas.
Non. Non, non, tu sais.
Ah non, sinon, là, le
mais sinon,
pas
tu
nuit,
dis
quoi.
Je sais pas, fais comme tu le sens. C'est toi qui as le talent. Paf.
Bang. Bim. Merci, Lisa Zolos.
Invité qui est un homme pressé, humoriste, chroniqueur télé, animateur radio et belge. Dans son one-man show, il a des choses à dire sur la musique, la sculpture, le cinéma ou l'art moderne. Allez voir Alex Vizorek est une œuvre d'art sur la scène de l'Alhambra. Alex Vizorek.
Bonjour Anne Romanoff. Vous avez vu comme j'ai fait un effort de couleur pour venir chez vous.
Vous êtes mis en bleu.
J'ai un pull bleu européen.
Ah,
wow. Bah là, j'ai tout donné.
Alors, ça fait 10 ans que vous jouez ce spectacle. J'espère qu'il est au point.
Non, mais on m'a dit que les premiers spectacles se jouaient longtemps aussi parce que.
Enfin, 10 ans.
C'est trop, Anne Romanoff.
Bah, bon, ok. 10 ans, un spectacle, vous allez faire un spectacle tous les 10 ans.
Il
en même
progressé.
Temps, il a abouti.
Il a, bah là, il est bien. Il n'y a plus une vanne qui marche pas. Hein,
c'est ce que vous avez pris le temps.
Non, mais les salles n'ont jamais
rodé.
Été aussi remplies. Alors, vous savez ce que c'est que c'est un bonheur de jouer dans des salles remplies. Et aujourd'hui, j'ai la chance que grâce aux médias, ça se passe.
Donc c'est un spectacle qui parle de l'art.
C'est un peu le prétexte, mais bien sûr que c'est ça.
Vous dites que l'art c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on n'y connaît rien qu'on peut pas en parler.
Exactement. Et à partir de ça, ça m'a déculpabilisé pour écrire sur ce sujet que j'aime bien, mais que je ne maîtrise pas. Je suis pas professeur d'art.
C'est en voyant Fabrice Uccelli sur scène.
Alors aussi vraiment, parce que quand il parlait de littérature, moi je me marrais pendant 1h40 et le lendemain j'allais acheter des bouquins. Et je me suis dit ça c'est fort. Si je parviens modestement à donner envie aux gens de
d'acheter
passer
des œuvres d'art, 30 000 balles le tableau.
De passer la porte d'amuser, mais c'est vrai, c'est ce que je dis. On peut pas s'acheter l'art. Mais par contre, on peut justement aller chercher les questions ouais. qui nous offrent sur la société. On se croirait sur France Culture.
Ah, mais oui, mais c'est
j'ai tout donné.
Très haut de gamme.
Ouais.
Alors,
je sais.
Vous avez intégré une école d'ingénieurs.
Ouais, bah,
et
comme
l'Université libre de Bruxelles, section journalisme. Et vous êtes sorti dernier de votre école.
Dernier de l'école de commerce.
Qu'est-ce que
non,
vous avez
fait? Non, mais je suis sorti quand même.
Oui, bah, vous êtes sorti, mais enfin.
Oui, oui. Disons que j'ai compris que c'était pas pour moi. Mais je suis arrivé au bout des 5 ans. C'est bac plus 5.
Ah ouais, t'es sûr qu'ils t'ont pas filé pour que tu te casses.
C'est une vraie possibilité.
Vous vouliez déjà être comédien à l'époque ou pas?
Je savais en tout cas que je voulais pas être banquier. Ça, c'était une certitude que j'avais.
Parce que déjà, il aimait pas du tout l'argent.
Alors là, vous allez faire un nouveau spectacle bientôt?
Oui, c'est promis. 2020, c'est prévu. Les salles sont réservées.
Vous ne l'avez pas écrit encore?
Non, bien sûr que non. Mais j'ai une petite idée de quoi il va parler. Mais je ne veux pas le dire, pas tant que j'ai pas envie de vous faire une confidence.
Pour qu'on vous vole cette idée géniale.
Alors, ça, c'est vrai que c'est très à la mode en ce moment. Mais non, parce que je me dis, une fois qu'on l'a dit, c'est comme si on l'avait fait. Et donc, j'ai envie que moi-même, je continue à m'angoisser de me dire, mais en fait, non, tu ne l'as pas fait, mon pote. Donc, il faut que tu l'écrives ce spectacle sur cette thématique-là qui est formidable.
Léal peut dire autant de fois qu'elle veut, j'ai couché cette nuit, elle l'a pas fait.
C'est vrai.
Vous parlez des cymbales dans votre spectacle ?
Oui, c'est-à-dire que comme le spectacle est divisé en arts différents, pour la musique classique, comme j'y connais rien, je me suis interrogé comme un béotien sur le choix de l'instrument. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête du gars qui est passionné de musique et qui se dit, moi, j'ai le feu sacré pour un seul instrument, c'est les cymbales, ouais. C'est sûr. Je veux devenir cymbaliste ou cymbalier. Parce que dans la langue française, il y a deux noms pour un métier que personne ne fait. Et je me suis dit, c'est assez intéressant, parce que tu ne peux pas choisir cymbalier. Enfin, je pense que la cymbale, c'est à la musique ce que la proctologie est à la médecine. C'est, on prend le plus maladroit et on l'oblige. Ce n'est pas des choix de vie, quoi. Et donc, je m'interroge là-dessus. Puis, je donne un cours de cymbale aux gens. Donc, si vous...
Ouais. Avec des vrais cymbales.
Avec des vrais cymbales.
Mais le public n'a pas de cymbales.
Non, mais on apprend vite la cymbale. C'est vraiment un truc. Ouais. Oui, on peut progresser très rapidement. Et puis je joue une œuvre sur scène à la cymbale. Oui, et je joue le concerto pour la main gauche de Ravel, qui fait que il sonne étouffé.
Et vous parlez du film Mort à Venise aussi.
Oui, parce que la partie cinéma, je me dis là, je vais prendre un film impressionnant. Donc quand je demande qui l'a vu, en règle générale, on est sur 1/10 dans la salle. Alors pour assurer les gens, je dis qui a vu Les Bronzés font du ski, et là les mains se lèvent. Et je dis on va parler de Mort à Venise parce que c'est quand même un des plus grands films de l'histoire du cinéma, et il y a la fin dans le titre. Et je trouve ça un peu idiot parce que en fait depuis la première minute on suit le même gars, mais il est dans tous les plans. Donc nous à un moment on se dit quand même, toi il va t'arriver quelque chose. Nous on a une petite idée dans quelle ville ça pourrait tomber.
Ouais.
Et lui il en sait rien parce qu'il a pas lu le livre évidemment. Et donc on a toujours envie de dire casse-toi, sauve-toi. Et puis bon je vous donne pas la fin, mais il n'est pas exclu qu'il y passe.
Ça a été difficile de faire votre trou en France, Alex Vizorek ?
Où que ce soit, c'était compliqué, effectivement, parce qu'on est, beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Voilà, on est bien autour de la table, qui ont beaucoup de talent. D'humoristes. Et en fait, il y a un public qui se crée aussi de plus en plus nombreux, qui aime découvrir. Je pense que l'émission de Ruquier a fait pas mal de bien là-dessus. Ils ont vu plein de gens talentueux.
Dans l'émission, on demande qu'à en
rire. Dans l'émission, on
n'y avait pas participé.
Non, j'avais pas très envie que Jean-Benguigui me dise que je dois arrêter le métier. Et donc, pour éviter ça, je suis pas allé. Je pense que j'étais pas assez prêt à ce moment-là. Un mec comme De Benoît, il avait 10 ans de métier, il est allé, il était bon. Ferrari, pareil. Ceux qui sont allés alors qu'ils avaient fait 3 fois une scène, ils se plantaient. Et c'était aussi le but de l'émission. Il fallait aussi montrer que c'était un vrai métier. Mais donc, du coup, les gens sont plus curieux et viennent découvrir d'autres humoristes dans des petites salles. Et je trouve ça vraiment plutôt bien.
François Guédon a des choses à vous dire, Alex Vizorek.
Oui, Alex Vizorek, la vie nous réserve parfois de jolies ironies. Et je dois dire qu'on n'a pas tous les jours l'occasion de chroniquer un chroniqueur.
Exactement.
Nous vous recevrons aujourd'hui, vous, Alex Vizorek, le fleuron de l'humour belge, chroniqueur radio, chroniqueur télé sur C8 dans Salut les Terriens, amoureux des mots, mais aussi visiblement grand sportif. Il faut quand même, je pense, avoir la plasticité du sillon interfessier de Jean-Claude Van Damme pour réussir le grand écart entre les pulls en laine de Charline Von Hanecker et les costards de Hardisson.
Il a raison.
Mais ce n'est pas à l'homme de radio que je m'adresse. Non, on ne va pas parler radio. Nous ne parlerons pas de l'infime différentiel d'audience entre nos deux maisons.
Oui, vous n'allez surtout pas en parler si vous voulez garder votre boulot ici.
Pardon. Non, c'est à l'homme de théâtre que je veux parler, puisque vous êtes là pour parler de votre spectacle. Ouais. Alex Vizorek est une œuvre d'art où vous nous proposer un voyage drôlatique à travers la culture et à travers les arts sous toutes ses formes. Vous convoquez tour à tour Bergman, Visconti, Ravel. Et on en revient toujours à cette fameuse question, mais qu'est-ce que c'est l'art ? Alors, le poteau Magritte, votre compatriote, déjà remet un petit peu en cause la question avec son fameux « ceci n'est pas une pipe ». Et est-ce qu'il y a plus d'art dans un champ de tournesol que dans les tableaux du même nom ? N'y a-t-il pas finalement autant d'art chez un Renoir que dans la coiffure de Ben H ?
François, je crois que vous êtes mal placé pour parler de cheveux, de votre petite tonsure.
Oui, c'est vrai que je suis mal placé, moi, avec mon teint blafard et ma calvitie qui sont un hommage vivant au clair-obscur.
T'as pas une calvitie, tu as un début de calvitie, c'est pas la même chose.
J'ai quand même une bonne grosse calvitie.
Tu es capillairement affaibli sur le dessus, mais t'es pas chauve encore.
Le truc avec la calvitie, c'est qu'on sait dans quel sens ça va aller, ça revient rarement en arrière. Je te le dis, au cas où t'avais pas prévu.
Non, je sais, je me fais pas de faux espoirs là-dessus. Mais je ne voudrais pas me faire un Cassandre de la culture. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'intérêt pour l'art est en déclin, que les musées se vident. Je pense que c'est tout le contraire. Quand on voit tous les samedis des milliers de personnes qui prennent le temps de visiter ces lieux d'art injustement sous-estimés que sont les ronds-points, moi je dis bravo. J'aime à penser que les gilets jaunes ne sont peut-être finalement que des esthètes de l'art giratoire.
C'est bien dit.
Et comment ne pas être touché par l'audace de la reproduction de grotte du rond-point de Bussy-Saint-Georges, par l'élégance de la fausse bouteille en béton de Saint-Amand-les-Eaux, ou encore par la beauté feutrée de la sculpture de cagouille du giratoire de Lorignac. Tant d'œuvres majeures.
François, vous pourriez revenir à notre invité, s'il vous plaît.
Pardon.
Je suis en train d'écrire un bouquin.
Je voulais juste vous dire, monsieur Vizorek, qu'à travers ce spectacle, loin d'être dans la pédanterie de salon, dans l'étalage de connaissances stériles, vous êtes un passeur d'art. Vous êtes un agitateur optimiste de curiosité. Alors, pour tenter de démontrer que ma culture picturale ne se cantonne pas aux Tortues Ninja, je terminerai en vous disant que, devant autant de talent et d'humilité, à l'instar de la Vénus de Milo, monsieur Vizorek, les bras m'en tombent.
Oh, je suis flatté. Oh.
Notre invité qui est le père de la world music, l'inventeur de l'afro jazz, son titre phare sous les Mac.
T'es déjà sous.
Soul Makossa est un des plus gros tubes mondiaux. Il a traversé les modes sans jamais se démoder. Aujourd'hui, il fête ses 60 ans de carrière. Ce matin, il vient nous parler de son safari symphonique qui sera le 17 octobre 2019 au Grand Rex à Paris. Avant cela, en tournée dans toute la France, le grand Manu Dibango est avec nous sur Europe 1.
Oui.
Bah oui.
Quel succès !
Bonjour Manu Dibango.
Bonjour Anne.
Bienvenue sur Europe 1.
Merci à vous, merci à l'équipe de me recevoir.
On vous a surnommé le parrain camerounais, le lion d'Afrique ou encore le grand sorcier saxophoniste. Comment je dois vous appeler ? Manu, Monsieur Dibango, Votre Altesse ?
Simplement Manu.
Simplement Manu.
Voilà, parce que ça commence par là, parce que les gens vous mettent des étiquettes. Hein.
Alors vous êtes venu nous parler de votre nouveau spectacle Manu Dibango Safari Symphonique que vous avez créé pour 60 ans de carrière.
Oui.
Pourquoi ce nom Safari ?
Parce que c'est une promenade à travers sept notes. Donc, cette note, beaucoup de paysages avec cette note. Hein. On peut faire des milliards de combinaisons avec ça. Et ben, safari, ben, un peu africain quand même.
Parce que pour durer 60 ans, il faut une mémoire d'éléphant, être le roi de la jungle, mais aussi le singe à qui on n'apprend plus à faire des grimaces.
Tout ça en même temps, c'est pas mal.
Oh. Pourtant, on a beaucoup braconné vos mélodies, Manu Dibango.
Oui, à propos de Safari, il y a du braconnage, ça c'est vrai.
Notamment Michael Jackson qui vous a piqué Soul Makossa.
Entre autres, Rihanna, enfin, il y a beaucoup de gens qui ont aimé ça, mais c'est bien que les gens ils aiment.
Mais ils vous ont donné de l'argent ou pas ?
Il y en a qui ont donné, il y en a qui ont donné, voilà, comme d'habitude.
Et Michael Jackson, il a donné ?
Il a donné un peu.
Ah ouais, vous l'avez rencontré Michael Jackson, Manu Dibango ?
Oui, quand même. Je l'ai rencontré quand ils étaient encore les Jackson 5.
Ouais.
Quand ils étaient bons.
Avant qu'ils vous volent votre morceau.
C'est ça, moi j'ai joué à la
Aux États-Unis.
Voilà. Il a trouvé que le morceau était bien.
Ouais.
Après les avocats aussi.
Rihanna vous a donné de l'argent ou...
Elle a donné l'argent à Michael.
À Michael.
Par contre, les Jay-Z, les Will Smith et tout ça, ils ont été réguliers.
Il y en a des réguliers. Ouais. Et vous dites, c'est un truc incroyable, cette chanson Soul Makossa, c'est votre plus grand tube, et c'était la phase B d'un disque que vous aviez fait pour la Coupe du Monde d'Afrique, c'est ça ?
Oui, quand il y avait encore des disques, il y avait des 45 tours. Ouais. Bah, c'est un conte de fées, en fait. Hein. Bon, ouais. C'est toujours pareil, c'est jamais sur le morceau sur lequel on compte. Hein. Ouais. Sinon, on y va tous les jours.
Ouais. Hein. Donc, on ne maîtrise pas de faire un tube, Manu Dibango, ça vous tombe
c'est
dessus.
C'est pas vous qui faites le tube, c'est le public qui fait le tube.
Manu Dibango, vous aimez tous les styles de musique ou il y a un style où vous dites non, ça je peux pas ?
Je peux pas me dire, je me permets de dire non. En fait, si j'aime pas, j'écoute pas. Hein.
Ouais.
Je veux dire, je n'en parle pas non plus parce que bon, on peut pas tout écouter dans la vie et absorber.
Là,
mais dans le même disque, on peut trouver un morceau sur 10 qu'on aime.
Ouais. Et voilà. Là, vous écoutez quoi, Manu Dibango, en ce moment ?
Du tout venant. Hein.
Du tout venant ?
Ouais, ouais, je suis disponible.
Mais vous écoutez Booba, par exemple ?
Booba. Écoutez, Booba, j'ai travaillé longtemps avec son père.
Ah ouais ? Hein ?
Et c'était mon percussionniste dans les années 70. Donc je connais Booba bébé.
Et vous n'avez pas demandé de pistonner un peu son fils ou de l'aider ?
Non,
à l'époque.
Non, mais à l'époque, il y a longtemps quand même. Hein. Mmh. Booba, il est célèbre depuis peut-être moins d'une dizaine d'années. Moi, j'ai connu Yaffa, parce que son père, c'est Yaffa. Hein. Je l'ai connu dans les années 60-70. Et on travaille dans les clubs à Paris. On a fait aussi l'Afrique. C'est quelqu'un que j'ai fréquenté beaucoup, son père.
Ah ouais.
Mmh. Et lui, il vous regardait petit
Il faut lui demander. Hein. Ouais, on a fait un truc ensemble au Canada, quand même à Québec, il y a 2 ou 3 ans.
Avec Booba.
Mmh. Ouais. Ben oui.
Ouais.
Mais c'est pas la première fois qu'il collabore avec des rappeurs. Moi, je me souviens que vous aviez posé un riff sur Ressent le son avec les Little MC.
Ah oui, ils doivent être grand-père maintenant.
Alors, dans ce spectacle, Manu Dibango, qui sera le 17 octobre 2019 au Grand Rex, au Safari Symphonique, il y aura, en plus de vos propres compositions, des musiques africaines, du jazz, du blues, de la musique classique, c'est ça ?
Oui. En fait, la musique totale, je veux dire... Vous savez, il y a des gens qui fantasment sur le fait que, bon, si tu es musicien, si tu es africain, musicien, c'est interdit pour toi d'écouter Mozart, Rachmaninoff et tout ça, parce que tu es africain.
Alors que vous, au contraire, vous avez...
Ben, moi, je suis un musicien d'origine africaine, donc je suis musicien.
Oui, mais en plus, vos parents étaient protestants. Manu Dibango, ils vous ont fait écouter beaucoup de musique classique quand vous étiez petit.
Oui, ma mère a dirigé la chorale hein, dans le temple et tout ça.
Dans
et
le temple protestant.
C'est ça. Et mon oncle paternel jouait de l'harmonium à l'époque des Allemands. Vous savez, on était Allemands avant, hein, avant la guerre 14-18. Hein,
au Cameroun.
La première guerre. Donc voilà, on était Allemands.
Et vous chantiez dans la chorale de votre maman, Manu Dibango ?
Exact, ouais, avant de venir
ici. En Douala ?
Oui, les chorales protestantes, on a les mêmes mélodies partout, ouais. Mais chaque pays met des paroles. Si bien que vous chantez, ce sont des mélodies allemandes, on ne le sait pas,
ouais.
Puisqu'on chante en Douala. Ah, on a l'impression que c'est notre musique. Ouais. Et quand vous arrivez en Europe, vous entendez ces trucs-là, vous dites, mais dis donc, ils ont piqué nos trucs.
Décidément, ouais. Ça commençait voilà. Là. Alors, à qui s'adresse ce spectacle, Manu Dibango ? Il faut avoir une oreille avertie, une oreille convertie. Il suffit d'avoir deux oreilles grandes ouvertes. Parce que moi, si j'y connais rien en blues, en jazz, en soul, si je confonds R&B avec Airbnb, je peux venir quand même.
Ben, vous venez écouter la mayonnaise. Ouais. Voilà, voilà.
C'est aussi dans ce spectacle qu'il y a la fusion de deux orchestres, le vôtre, le soul, Mokossa Gang et l'orchestre Lamoureux. Comment on mélange deux orchestres ?
Ce sont des choses que j'ai déjà fait, mais pas de cette façon à Paris.
Alors, votre mère dirigeait une chorale, on l'a dit, votre père était fonctionnaire, du coup, je ne vous demande pas lequel des deux vous a transmis l'amour de la musique. Votre père vous a transmis l'amour de la sieste, du coup ?
Non, il ne siestait pas, il ne prenait pas de vacances, et ça, c'était notre grand malheur.
Vous êtes arrivé en 1949, vous prenez le bateau pour Marseille, vous êtes accueilli...
Ça fait 70 ans, hein, ouais, au fait.
70 ans.
Voilà, je suis arrivé au mois de mars.
Comment vous faites pour garder cette pêche et toute cette énergie, Manu Dibango ?
C'est la drogue.
C'est ma drogue.
Ah, c'est la musique.
Alors, vous êtes accueilli dans la Sarthe par une famille d'accueil qui elle-même vous met dans un internat. Oui. Cette famille dans la Sarthe, c'était pas les Fillon par hasard ?
Et son village n'est pas loin. Donc,
alors, du Cameroun à un internat sartois, comment ça s'est passé la transition ? Vous êtes resté enrhumé avec le nez qui coulait pendant combien d'années ?
Non, mais l'histoire, c'est qu'il n'y avait pas d'avion encore. On faisait ça par bateau. Hein. Ouais. Donc, ça faisait Douala à Marseille 21 jours. Donc, c'est une espèce de voyage initiatique, finalement. Hein. Je vais dans
en
un
plus, il
n'y
avait pas
monde.
De téléphone portable à l'époque pour appeler ses parents. Il n'y avait rien, quoi.
Tiens, quand il m'écrivait, ça mettait un mois avant de m'arriver. Donc, quand il m'engueulait, j'en avais pour toi.
Et alors là, ce qui se passe, c'est que vous ratez votre bac et votre père vous coupe...
La deuxième partie, j'étais en Espagne.
Et votre père vous coupe les vivres.
Voilà.
Et là ?
Ben, je prends d'autres vivres.
C'est-à-dire là que vous avez commencé à vous produire dans...
Ouais, j'ai commencé, puis je suis allé en Belgique. Je suis resté longtemps en Belgique.
Ouais,
je suis resté longtemps en Belgique. Je me suis marié en Belgique. C'est de là que je suis parti au Congo, en fait.
Mais ça a été un petit peu long quand même, parce que vous avez démarré la musique assez tard, finalement, Manu Dibango.
L'essentiel, c'est que ça se passe.
Chacun
a son tempo, en fait. Hein. Ouais. Voilà. Donc mon tempo n'était pas de commencer à, je sais pas, à 15 ans. J'ai commencé à quel âge ? À 18 ans.
Si vous avez commencé à 18 ans, vous gagnez votre vie à 18 ans, c'est...
Non, ça a été crescendo, mais chacun a son crescendo, hein.
Ouais.
Voilà. Oui, le nôtre, il est lent.
Il va crescendo, non ?
Non, ben, au fur et à mesure, puis j'avais des bonnes oreilles, quoi. J'ai toujours des oreilles, d'ailleurs. Je sais pas si on est musicien ou si on devient musicien. Toujours est-il que je n'avais pas d'instrument en Afrique. Je suis arrivé à 15 ans ici, mais je chantais déjà. Puis j'ai commencé le saxo ici, le piano aussi, puisque je suis pianiste en fait, au départ. Ouais. Je suis d'abord pianiste avant, mais bon, je ne gagnais pas ma vie ici, si, derrière Nino Ferrer. Hein, je travaillais longtemps avec Nino Ferrer.
Nino Ferrer, pianiste. Dick Rivers aussi.
Voilà, voilà, j'étais le pianiste rock de Dick.
Mais c'est moins facile à transporter un piano aussi. Pour voyager.
Oui, mais tu es sûr d'en trouver toujours un.
Oui, c'est vrai. Il y en a toujours un
voilà,
quelque
même
part.
Même désaccordé, c'est pas grave. Hein, ouais. Mais on en trouve toujours. Donc j'étais pianiste et puis organiste chez Nino. Voilà.
Chez Nino Ferrer. Et alors, Manu Dibango, quand vous n'allez pas en Afrique, ça vous manque quand même au bout d'un moment. Vous êtes depuis 60 ans en France, mais l'Afrique vous manque.
Non, je suis en France depuis 70 ans.
70 ans, oui.
Mais je ne suis pas interdit d'Afrique. Comme je parle de politique, je vais partout en Afrique... Et ma foi, je joue beaucoup en Afrique, parce que les gens, ils aiment bien avoir un papy.
Mais nous, c'est un papy qu'on aime beaucoup, Manu Dibango, ouais. Ne bougez pas. À propos de votre joie de vivre, Manu Dibango, vous dites « Le bonheur, c'est naturel, je monte sur scène pour voyager avec les gens, il y a pire. Être heureux, ça ne se provoque pas, ça ne se travaille pas, c'est quelque chose qui vient du fond de soi. » Vous avez cette joie de vivre depuis toujours ?
Un, vous n'avez pas demandé à venir. Ouais. Sur cette terre. Deux, vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes locataire parce que vous allez partir. Entre les deux, qu'est-ce qu'on fait ? On est dans la tristesse ou bien on s'amuse parce que, ou bien on fait des trucs intéressants parce que demain on va partir. Alors, vous arrivez à poil, vous partez à poil. Hein. Voilà, voilà.
Non, mais c'est vrai.
Vous n'avez pas ça en tête, c'est simple. Mais c'est la vie. On s'enquiquine tous les jours à se bagarrer. Ouais, c'est à moi. Qu'est-ce qu'il y a à vous, sinon vous-même ?
Ouais, c'est vrai. Hein ? Ah. Donc la question, c'est est-ce qu'il faut subir d'être là ou en profiter, en fait ?
Vous avez le choix, cher ami.
Ouais.
Hein
bah on va, on
non,
va
mais il y a des jours où on est déprimé aussi, Manu Dibango.
Ça fait partie du lot. Hein.
Ouais.
Ben ouais, sinon, il n'y a pas de relief.
Ouais.
Ah.
Hein, il faut un relief quelque part.
Des fois, vous êtes déprimé, Manu Dibango, vous ?
Comme tout un chacun.
Ouais. Hein Michael Quiroga a des choses à vous dire, Manu Dibango. Lui, il est déprimé tous les jours. Donc... Ah ouais.
Merci. Donc, Manu, bonjour.
Bonjour.
Je suis ravi de vous voir, c'est un bonheur, mesdames et messieurs, derrière ces lunettes noires. 70 ans de musique vous contemple. Manu Dibango, le père de la world music, le lion du saxophone, le baobab de l'afro jazz, le pape de la musique africaine, alias Papa Groove, un papa qui ne sait même pas combien il a de bébés, parce que vous êtes présent depuis si longtemps que vous ne savez même pas exactement combien de disques vous avez enregistrés.
Plus d'une quarantaine.
Ouais, mais il ne sait pas exactement combien. C'est marrant, c'est un peu comme si Giroud ne se rappelait plus exactement combien de buts il a. Mauvais exemple. Ça marche mieux avec Pelé. Surtout que Giroud, c'est plus facile de compter ses buts que vos disques, hein, je vous le dis. Alors Manu, je vais humblement essayer de dresser votre portrait, je ne suis pas le premier, hein. On a beaucoup écrit sur vous, on a chanté sur vous, il y a même des peintres qui ont réalisé votre portrait.
Et vous, on n'a jamais fait votre portrait, Mickaël ?
Alors si, on a déjà fait mon portrait, mais ils n'appelaient pas ça tout à fait un portrait. Plus exactement, ils appelaient ça un portrait robot, mais c'est pas le sujet. Manu Dibango, ce qu'on remarque en premier chez vous, c'est que vous avez la pêche, quoi. Vous êtes souriant, vous faites pas du tout votre âge, vous me faites un peu penser à vous voyez Gérard Collomb. Eh ben exactement
oui,
l'inverse.
Oui.
Vous avez eu des parents protestants, Anne nous l'a dit. Alors une des différences essentielles avec le catholicisme pour moi et le protestantisme, en fait, c'est le gospel. Ah, le gospel, j'adore ça. Ça déclenche la ferveur, ça met une ambiance. Tu vois, direct. Bon, ils n'ont pas le tempo, mais c'est ça, à peu près. Parce que, non, mais ça, c'est vrai, ça met l'ambiance. Parce que chez les protestants, le gospel, c'était plutôt ça. Ah bah oui, là... Alors, le chant grégorien est au gospel ce que Vincent Delerme est au disco. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est sympa, mais c'est un peu moins swing. Voilà. Quand on regarde votre parcours, on voit que vous avez d'abord joué de la mandoline, puis du piano, mais votre rêve, au fond, là, vous ne l'avez pas dit, mais c'était de jouer du violon.
C'est vrai.
Alors ne soyez pas déçus parce que moi j'ai un cousin qui a fait du violon pendant 5 ans et franchement 5 ans de violon il a pas aimé. Et d'ailleurs il est bien content d'être libéré la semaine prochaine. Donc ensuite vous vous êtes fixé sur le saxophone et franchement vous avez eu raison parce que moi je reviens pas de l'effet que le saxophone fait aux femmes. Hein. Alors je sais pas si c'est le côté doré qui fait riche ou la longueur qui fait rêver mais ça marche. Hein. Ah non si vous jouez du kazoo faut pas vous coller à côté d'un saxophoniste. Hein. Vous allez passer une sale soirée. À Paris, vous avez côtoyé alors les plus grands, Nino Ferrer, vous l'avez dit, mais aussi Serge Gainsbourg. Hein. Alors à l'époque, c'était un tout jeune Gainsbourg, il jouait encore dans les piano-bars. Ensuite, c'est devenu la star qu'on connaît et qu'on aime, hein, même s'il faisait un peu moins de piano, un peu plus de bar. En 75, vous posez les valises à Abidjan en Côte d'Ivoire. Alors ça non plus, on l'a pas dit, mais pendant 4 ou 5 ans, vous êtes ivoirien, vous dirigez l'orchestre de la télévision ivoirienne. Alors c'est marrant, ça c'est comme Macron, parce que lui aussi, il s'appelle Emmanuel. Lui aussi, il a posé les valises pour 5 ans et apparemment, lui aussi, ivoirien. Donc, Manu Dibango, vous avez débarqué en France à l'âge de 15 ans avec 3 kilos de café et des tonnes d'amour que vous avez su donner à travers votre musique. Votre tournée Safari Symphonique le prouve. Le son afro jazz se mêle au classique, une rencontre au sommet entre la rigueur symphonique et l'imprévisibilité de l'âme africaine. Les deux formations vont s'observer, se tester, se tourner autour pour finalement se mélanger, une sorte de grosse soirée Tinder mais pour orchestre. Voilà, à ne manquer sous aucun prétexte bien sûr et comptez sur nous, Papa Groove, on sera là.
Ah là là, bravo, merci.
Vous voulez pas nous chanter un truc a cappella ?
Wow.
Oh. Ouais, est-ce que vous voulez un tout petit truc même.
Qu'est-ce que je peux chanter, moi des sanglots longs, podon-don, des violons, podon-don, de l'automne, papo-de-bu-dum-di-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-bi-de-b monotone.
Merci Manu Dibango. Ce que vous faites entre chaque paragraphe, Manu Dibango, ça s'appelle du scat. C'est ça qu'on appelle du scat ou pas?
C'est, le ça, c'est Armstrong qui a trouvé ça. Il avait perdu les paroles d'une chanson. La feuille s'était envolée, donc il a fallu qu'il fasse quelque chose au studio. Et ça, c'était dans les années 20.
Ouais,
il vous devriez faire pareil, Anne, hein, quand vous ne savez plus quoi dire. Quand vous n'y arrivez plus.
Bah,
c'est mon manœuvre sur un petit bilibili.
Mais moi, je sais pas faire
et
du skat.
Et ça passe.
Mais non,
ça
c'est passe, un talent, ça. Boudou, 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 boudou.
Bravo. Bravo. Faut le faire en rythme, quoi.
Il faut le mettre en rythme. C'est comme le rap, hein, c'est un rythme. Hein.
Bah ouais, c'est comme ceux qui et font vous, du beatbox.
Et vous savez rapper, Manu Dibango?
Non, mais j'ai été le premier à faire Mamako, c'est un peu ça. Hein,
ouais, c'est vrai. Voilà.
C'est un peu la même chose.
Ben, non, ils gagnent plus d'argent.
Léa Landau a des choses à vous dire, Manu Dibango.
Oui, Manu Dibango. Alors bon, on l'a dit, hein, l'un de vos surnoms est le lion d'Afrique. Est-ce que vous avez, en fait, vous avez tellement tout fait, travaillé avec tellement d'artistes, qu'est-ce qui peut encore vous faire rugir de plaisir, Manu Dibango?
Rugir, ben, déjà, rugir, c'est bien. On n'a pas de plan particulier, sinon de faire des choses. C'est ça, la passion.
Mm-hmm. Alors, en plus du lion d'Afrique, on vous appelle aussi donc le parrain camerounais ou le grand sorcier saxophoniste. Vous avez une préférence dans tous ces surnoms qu'on vous a attribués?
Bah, en fait, mon nom, c'est éléphant. Alors, c'est un éléphant qui devient lion. Alors.
Ah ouais. Et alors, tous vos albums, ce serait comme des éléphantaux. Et est-ce que vous en avez un de préféré comme les parents, ils ont toujours leur chouchou?
Non, c'est les enfants. Tous les enfants, on aime tous ces enfants. Hein.
Ouais, donc hein, ouais, vous les aimez tous.
Logiquement.
Et c'est romantique, un lion, Manu Dibango, ou c'est sauvage?
Il faut lui demander. Hein.
Ben c'est vous qu'on si vous appelle le lion.
Si vous avez le... Ah ouais, mais
ou l'éléphant.
Moi, je délègue, là. Au vrai lion, là.
Et vous êtes romantique ou sauvage, Manu Dibango?
Ça dépend à quel moment. Ah. Hein, vous aussi, d'ailleurs.
Sauvage et romantique.
En ce moment, il est dans une période sauvage.
Oui. Et il se passe un truc entre... Là, il se passe un truc entre Adromanoff et Grand Baobab africain, là.
Non, mais elle me pique, alors moi, je suis obligé de...
Vous avez raison de répondre. Alors, Manu Dibango, plus on est vieux, plus on se fait respecter dans la jungle musicale ou plus on doit se battre pour garder sa place?
Non, on se contente de faire la musique, d'assumer sa passion. Voilà. C'est une chance extraordinaire d'avoir une passion. Parce que, alors, ça justifie votre présence. Sinon, vous êtes mouton, quoi. Encore que je ne suis pas contre les moutons, j'aime bien. Mais disons que, réellement, quand on a une passion, on sait pourquoi on souffre.
Ah oui?
Ben, forcément, il faut assumer. On a une carrière en dents de scie. Hein. D'ailleurs, il devrait avoir des dents de scie d'or, des dents de scie d'or.
C'est vrai, c'est vrai.
Ah ouais. Parce que quel est l'artiste qui n'a pas, hein, qui n'a pas eu des dents de scie dans sa carrière?
Ça, c'est vrai.
Dites-vous. Jésus.
Ah, ouais.
Ouais. Ah ben si, 33 ans, c'est pas terrible. Hein.
Ouais. Nous, on connaît que ça, le dents de scie.
C'était court, bon. Mais ça a grimpé jusqu'au bout. Hein.
Et dans la musique, qui est votre lionne, Manu Dibango, la reine pour vous?
Oh, il y a plusieurs reines. Hein.
Ouais. S'il y en a une que vraiment vous adorez.
Non, bah, on ne peut pas adorer une. Il y a déjà 7 notes. Est-ce que vous aimez une note par rapport à d'autres? Non, vous aimez les notes.
Mm-hmm. Bon, ben ça, c'est un truc pour dire aux femmes, il y a 7 notes, vous êtes 7 femmes.
Ben oui, ben ça fait la semaine. Hein.
Papa.
Et est-ce que dans la jungle musicale, il y a des hyènes, Manu Dibango?
Il y a forcément les hyènes parce qu'il y a des fausses notes.
C'est vrai, il faut s'en méfier. Et alors, si Anne Roumanoff était un animal de jungle, Manu Dibango, ce serait lequel, à votre avis?
Une louve.
Oh, une louve? Pourquoi une louve?
Parce que j'aime bien la louve.
C'est une bonne réponse. Merci, Manu Dibango.
Invité qui est la seule médecin en France à réussir à se rendre chez tous les Français en même temps, tous les jours. Animatrice des émissions Le Monde d'en Face, Enquête de Santé, Le Mac de la Santé, l'uniforme de grande dame de la télé lui va aussi bien que sa blouse blanche. Aux côtés de Michel Cimès, jamais on n'a vu à la télé un couple de médecins aussi passionnant depuis Grey's Anatomy. Elle a reçu en 2009 le prix de la Fondation pour la Recherche Médicale et c'est également une écrivaine de talent, vous l'aurez compris. Marina Carrère-Dancausse est avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Marina Carrère-Dancausse.
Bonjour Anne Roumanoff.
Alors vous êtes animatrice, chroniqueuse, également médecin, romancière. Est-ce qu'on peut faire confiance à un médecin qui aime raconter des histoires?
Au contraire, oui, on peut tout à fait. C'est bien les médecins qui racontent des histoires. Ça, du moment qu'ils ne racontent pas des histoires à leurs patients, tout va bien.
Oui, parce que la plupart du temps, c'est les patients qui racontent des histoires au docteur. Oui, docteur, moi, je ne comprends pas. J'ai le cholestérol, j'ai arrêté la charcuterie, j'en ai pas mangé depuis une heure.
D'abord, les gens qui ont du cholestérol, ils peuvent quand même manger un peu de charcuterie.
C'est vrai?
On a arrêté le tout interdit maintenant. Donc le fromage, ça n'est plus totalement interdit. Les œufs, pareil.
Parce qu'en plus, moi, je le fabrique moi-même.
Le quoi? Le fromage?
La charcuterie, le fromage.
Non, le cholestérol, il paraît que ça n'a pas de rapport avec ce que je mange. Donc, du coup, pourquoi je ferai attention?
Non, c'est bien de faire attention quand on en a trop.
C'est ma mère.
C'est votre mère.
Non, genre, c'est la famille, quoi.
Ah bah oui, il y a des cas familiaux.
Anne, elle est juste médecin.
C'est ma mère.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour moi?
Mais il faut surveiller, mais se traiter évidemment, parce que c'est quand même risqué d'avoir trop de cholestérol, mais pas plus tout supprimer, c'est terminé ça.
J'étais dans un restaurant et.
Allez-y, parlez, Anne.
Terrine de pâté à volonté.
Aïe, 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 aïe.
Donc volonté, ils m'ont mis, mais vraiment un truc sur la table. Et
vous étiez chez Flunch? Elle a su rester simple.
Et j'en ai pris une. Je me suis dit, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé.
Ouais,
et j'en ai pris une petite tranchette.
Ouais. Bah, c'est très bien.
Et après, j'avais pris une salade pour que ce soit léger.
Ouais, voilà. C'est le truc.
Et après, j'ai repris une petite tranchette.
Puis un peu de salade pour faire léger.
Et elle a dégommé tout le buffet.
Et
les autres clients, ils gueulaient, ils n'avaient plus rien à manger.
Et alors, c'est ça.
Mais ça vous a rendu heureuse?
Oui, malade sur le aussi. Coup, ouais. Mais maintenant, je me dis, j'aurais pas dû en manger
autant. Ah bah non, ça, il faut pas. À un moment, on s'est fait plaisir, on fait plus attention le lendemain, c'est tout, mais il faut se faire plaisir.
Elle est venue en courant ce matin.
Et là, je jeûne aujourd'hui.
Mais pour quoi faire?
On mange
pour éliminer le pâté d'hier soir.
Oh là là.
Ah oui, je sais pas. Ah,
attendez, la journée n'est pas finie. Hein.
Oui, d'accord.
Le jeûne du matin, en général, à 12h30, il est mort. Hein.
Mais c'est bien ça, quand on a fait un des excès de...
De jeûner? Non, de manger de manière modérée, oui, mais de jeûner, non. Jeûner, ça n'a pas un grand intérêt. Hein.
Mais il paraît que ça détoxifie.
Non, mais on a des organes qui sont faits pour détoxifier. On a des reins et un foie qui sont faits pour ça.
Ah.
C'est dans notre organisme. Hein.
Vous êtes pleine de bon sens, Marina Carrère.
Tiens, j'aime un tout petit peu la vie, donc il faut bien avoir du bon
sens. Je vais prendre votre téléphone, pour que j'ai des soucis, je vous appelle.
Oula, va falloir changer de ligne.
Marina Carrère, donc, vous animez l'émission Le Monde d'en Face sur France 5, tous les mardis à 21h50, une émission d'analyse sociétale. Analyser, finalement, c'est aussi très médical. Est-ce qu'on ausculte l'actualité comme on ausculte un patient? On a le résultat des analyses rapidement, il faut attendre l'émission du mois suivant. Et quand les analyses ne sont pas bonnes, vous le dites franchement aux auditeurs ou vous optez pour le secret médical?
Ce que j'ai en tout cas de commun quand je fais ça et quand j'étais avec mes patients, c'est que j'écoute, en fait.
Ouais.
C'est vraiment ce qui me lie dans toutes mes activités. Donc voilà, j'écoute mes invités, j'écoute les experts. Et si le secret médical, je me retranche assez peu derrière quand même pendant mes émissions.
Ouais. L'impôt à la source, par exemple, c'est une forme de coloscopie.
Coloscopie, on est anesthésié. Hein.
Ah oui.
L'impôt à la source, non.
Ah ouais.
Vous savez qu'on a un point commun, Marina Carrère d'Encausse, c'est que vous traitez des maladies chroniques. Et moi, mes chroniqueurs font des chroniques de malades. Et parfois, ils sont malades à l'idée de faire une chronique. Comment on fait, d'ailleurs, Marina Carrère d'Encausse, pour ne pas rire quand on évoque, par exemple, les problèmes de flatulence ou...
Mais je ris.
Oui, vous dites ça à la personne qui a le plus de fou rire en télé. Quoi.
Non, je ris, c'est pas grave. De toute façon, d'abord, je peux pas m'empêcher, on est en direct, donc je peux rien y faire. Mais le seul truc important, c'est d'arriver à reprendre son sérieux, à faire attention si on doit lancer derrière un sujet grave, d'arriver à trouver une transition. Mais après ça, rire, c'est normal. Hein.
Alors, vous animez évidemment donc, le MAC de la santé du lundi au vendredi à 13h40 sur France 5, donc tous les jours. Donc, comme vous dites, c'est en direct, c'est ça qui explique les fou rires, les lapsus qui ont rendu l'émission culte.
Oui, le lapsus, pas tout le temps quand même, mais il y en a, oui. Oui, bien sûr, c'est normal.
Vous êtes rieuse, en fait, Marina Carrère d'Encausse.
Ah, moi, je suis complètement folle, moi. Donc, je ris à partir du moment où je me lève et je ris toute seule. Hein. J'ai aucun problème pour rire toute seule.
Ah oui. Mais par exemple, quand vous étiez médecin, des fois, il n'y a pas de quoi rire, non?
Non, mais je ne ris pas sur n'importe quoi. Je ne suis pas idiote non plus. Je suis blonde, d'accord, mais pas idiote, vous voyez. Donc,
quand vous faisiez des mauvais diagnostics, des mauvaises nouvelles, vous n'étiez pas morte de rire non plus.
Ah non, mais de toute façon, j'étais tellement anxieuse que je faisais revoir pratiquement toujours mes diagnostics par un autre médecin. Donc,
Vous n'avez pas confiance en vous, vous dites?
Non, pas du tout.
Mais comment ça se fait, ça?
Vous
dites, j'ai une confiance en moi proche du ras du sol.
Oui, absolument. C'est vrai.
Mais pourquoi?
Ça fait flipper.
Oui, pour un médecin, c'est flippant.
C'est pour ça que j'ai arrêté l'exercice de la médecine, d'ailleurs.
Ah. Vous arrivez encore à trouver des sujets dont vous n'avez jamais parlé, genre parce qu'il y a des modes aussi des maladies en fonction de l'année. Par exemple, à Noël, les indigestions, à la Saint-Valentin, les MST, en novembre, la dépression. Ouais.
Non, on trouve bien sûr toujours de nouveaux sujets, mais c'est surtout qu'on trouve des nouveaux angles en permanence.
Vous avez peur de tomber malade aussi, Marina Carrère d'Encausse? Vous êtes hypochondriaque?
Oui.
C'est bizarre, d'ailleurs, de présenter une émission de santé et d'avoir peur d'être malade.
Non, ça me rassure plutôt. Parce que sur le fond, je suis raisonnable et puis j'ai fait des études de médecine. Je sais que tout ce que j'ai comme symptômes, etc., c'est pas grave, mais ça m'angoisse.
Ah, vous êtes anxieuse et pas confiance en vous. Pourtant, quand on vous voit, vous faites... voyez,
j'étais bien élevée.
Non, mais vous faites solide, vous faites une femme solide.
Je sais pas, mais tant mieux. Hein,
vous avez l'air équilibrée. Par exemple, vous avez l'air beaucoup... Non, mais c'est vrai.
Je sais pas si c'est le terme qui me va le mieux.
Vous faites beaucoup plus équilibré, Christine Béraud.
Mais c'est quand j'étais sûre,
j'en étais
sûre,
elle cherchait un moyen scud, c'est pour toi.
Je reviens de vacances, tout ça, voilà comment je suis accueillie. Bon, très bien.
Non, mais c'est vrai, vous, c'est une façade, ce côté.
Ah oui.
Ah bon?
Non, mais de toute façon, c'est une façade qui est normale. Je présente des émissions, je ne vais pas ni avoir l'air anxieuse, ni me plaindre, ni rien. J'ai de la chance dans l'existence. Je peux au moins être agréable et aimable pour les téléspectateurs. C'est quand même le minimum.
Mais au fond de vous, vous êtes qui alors, Marina Caramanco?
Je suis quelqu'un de profondément anxieux et névrosé. Vraiment profondément anxieux, surtout.
Et pourquoi vous riez tout le temps alors? Parce que c'est assez paradoxal.
C'est nerveux.
Je ne sais pas, parce que les choses me font rire. Parce que, voilà,
c'est ça, ouais.
Vous avez l'air heureuse, moi, je trouve.
Oui.
Non, mais je suis aussi heureuse.
Vous êtes amoureuse, c'est pour ça.
J'ai des jokers.
Vous n'êtes pas amoureuse?
Deuxième joker.
C'est pas
oh non, moi, nous, on adore les gens qui ont des problèmes de couple dans cette émission.
Oui,
ça nous rassure parce qu'on est tous.
À part,
il y en a deux bien. Qui sont heureux en couple, mais les autres ont galère.
Ben moi, je suis heureux célibataire. Ça, vous avez du mal à l'avaler encore, hein, mais je suis heureux célibataire. Ça existe, docteur?
Mais bien sûr que ça existe, heureusement.
Bien sûr.
Mais reparlons de Marina. Vous êtes mon copain.
Alors, votre livre, Une femme entre le monde, vient de sortir aux éditions de poche. Ça vous fait plaisir de sortir en poche, j'imagine?
Je suis extrêmement contente. Le premier déjà était sorti, effectivement, en pocket. Et ça avait très, très bien marché. Et c'est vrai que je trouve que c'est tellement important que les gens qui ont un peu moins de moyens puissent avoir accès à la lecture. C'est cher, un livre en grand format, quand même. Hein. Et nous, on fait dans le magazine de la santé l'été des chroniques uniquement poche. Et ça marche extrêmement bien. Et je trouve que c'est vraiment important.
Et là, vous préparez un autre roman, Marina Caramanco?
Oui, mais un roman policier.
Ah oui? Et alors, ça en est où?
Ça avance, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas qui a tué, je ne sais pas.
Vous n'avez pas décidé encore?
Oh, pas du tout. Voilà. Je verrai à la fin.
Elle a juste pris le chèque d'acompte et puis là... La
victime, elle est
elle
déjà là.
Elle va s'y mettre le 14 au soir, allez hop.
La victime est déjà là.
Est-ce qu'il y aura un médecin légiste pour pouvoir mettre à profit vos connaissances médicales?
Oui, ben c'est la première fois du coup, parce que je ne voulais surtout pas faire de médecine dans mes romans, mais là je vais être obligée quand même d'utiliser l'ADN, le médecin légiste. Oui, bien sûr, je suis un peu obligée. Mais du coup, en même temps, j'aime bien, ça me fait plaisir.
Après, donc, vous décidez de faire des études de médecine et vous spécialisez dans l'échographie. Pourquoi ce choix? C'est pour voir ce que les gens avaient dans le ventre?
Non, c'est parce qu'en fait, j'avais eu mon accident de voiture pendant mon internat en médecine.
À 24 ans, c'est un grave accident
de
voiture.
Et que du coup, une fois que je suis sortie de réanimation de l'hôpital, tout, je suis arrivée au bout de 6 mois avec des béquilles, enfin en très mauvais état. Et je ne sais pas sur quelle intuition, avant de partir en vacances, j'avais donné ma carte d'étudiant à un de mes copains en lui disant « Écoute, si jamais je ne reviens pas, prends-moi un stage où tu veux ». Je ne sais pas ce qui m'a pris. Effectivement, je ne suis pas revenue. Et donc, on avait cherché un endroit où je pouvais rester assise. Et du coup, voilà, l'échographie, je pouvais rester assise. Donc, j'ai appris. Donc, je suis allée en échographie pour ça.
Vous avez fait les bébés aussi?
Non, je faisais surtout l'échographie digestive.
Ah oui, c'est moins.
C'est pas vous qui annoncez si c'est une fille ou un garçon?
Non, c'était beaucoup moins
glamour. C'est un cancer ou un ulcère?
C'était un peu plus, effectivement, les mauvaises nouvelles. Mais ouais.
Et ça, c'est pas trop dur, ça?
J'en ai pas fait très longtemps parce que j'ai rencontré comme ça en fait mon mari qui était échographiste et comme il était bien meilleur que moi, j'ai fait autre chose.
Ben Mach a des choses à vous dire, Marina Caramanco.
Enfin, si, j'aimerais bien, mais.
C'est pas lui ?
Non, je vous aime bien, Marina. J'ai regardé la plupart de vos émissions.
Non, alors, Laurent Barra a des choses à vous dire, Marina.
C'est le chroniqueur le mieux mis en valeur.
Je vous jure que l'histoire. Toutes les semaines, ma mère, elle écoute l'émission, elle m'a dit
qu'est-ce qui te fait bien ?
Tu racontes, toi. Oui, maman. Marina Carrère d'Encausse, merci de me recevoir comme ça, sans rendez-vous. Je suis très heureux d'être à côté de vous parce que vous êtes le médecin que tout le monde aimerait avoir. C'est vrai, vous nous faites du bien, votre bonne humeur, vos fous rires sur les plateaux télé, dans des émissions médicales, avec des thèmes parfois anxiogènes, permettent à l'hypocondriaque que je suis de dédramatiser ce sujet qui nous concerne tous finalement, la santé. Mais oui, je suis hypocondriaque comme vous apparemment.
Ben oui.
Il m'arrive souvent de passer des soirées entières sur internet à consulter des sites médicaux comme Doctissimo pour voir les dernières tendances, les dernières nouvelles, vous savez, les petites nouveautés. Ah, c'est super Doctissimo, allez-y vraiment, si tout va bien dans ta vie. T'as pas de soucis particuliers, mais t'as envie de pimenter un peu l'histoire. Va sur Doctissimo et tu auras la certitude immédiate que tu vas crever. Je suis un vrai hypocondriaque, même patienter dans une salle d'attente est une véritable torture pour moi. En même temps, pas besoin d'être hypocondriaque pour se rendre compte que la salle d'attente chez le généraliste est un endroit dont les conditions d'hygiène laissent vraiment à désirer. Faire poireauter pendant des heures des gens malades dans une même pièce, pas aérée. Putain, tu arrives avec tes microbes, tu repars avec les tiens plus ceux des autres. Ah, c'est très dur d'être hypocondriaque, Marina. Et cette maladie, car oui, c'est une maladie, n'a fait qu'empirer depuis le jour de mes 40 ans. Parce qu'à 40 ans, quand tu vas chez le médecin,
médecin. Tu sais très bien qu'il va plus te trouver des maladies cool comme la rubéole, la scarlatine ou la varicelle. Oh, ce gratouille ! Non, il va te demander de faire des analyses avec ce terme qui sonne comme la fin de quelque chose, le bilan. Allez, monsieur Barra, on va faire un bilan. Mais heureusement plutôt que vous êtes là, Marina Carrère d'Encausse, vous qui avez humanisé la médecine moderne à une époque où, on ne va pas se mentir, vos confrères prennent de moins en moins de temps avec leurs patients. Ouvrez la bouche, toussez, c'est le stress, carte vitale, 25 euros. Ah, le stress, c'est le premier bouclier des médecins généralistes. Vous avez remarqué ça, hein ? C'est le stress, prenez un ophytose. Faites le fondre sous la langue. Mais docteur, j'ai perdu un bras, c'est le stress. Prenez un ophytose, faites le fondre sous la langue. Mais mieux que tous ces cachets inutiles censés nous apaiser, ce sont vos rires et surtout vos sourires, Marina, qui agissent comme de véritables pansements sur les hypochondriacs que nous sommes. Prouvant ainsi que dans certains cas, il est parfois plus utile de rire que de prescrire.
Waouh !
Bravo !
Je vous présente Christine Béroux,
oui.
La merveilleuse Christine Béroux,
oui.
Qui revient de Thalasso, où
tout
elle a, en Bretagne, nous explique qu'elle n'a pas bronzé.
Non, c'est vrai. En langage médical, ici, je suis l'équivalent du protoxyde d'azote. Voilà. Alors, elle peut rire, mais vous pas, parce
non,
que
tout,
c'est
pas
de l'humour de médecin. Voilà. Alors, en plus, moi, j'ai fait 15 ans de médecine. Enfin, j'ai regardé les 15 saisons d'urgence. Je ne sais pas si ça compte. Et du coup, je vous ai préparé une série de petits quiz ludiques.
Oui.
Attention, c'est parti. Pour commencer, je vais vous proposer un QCM dont les réponses sont des parties du corps humain. Attention, quelle est la pire chose qui pourrait vous arriver à France 5 ? Avoir les chevilles qui enflent, avoir un poil dans la main ou avoir un coup dans le nez ?
Avoir un poil dans la main.
Que faites-vous face à des gens qui croient en l'homéopathie ? Vous leur dites qu'ils se mettent le doigt dans l'œil, vous leur ouvrez les bras ou vous restez bouche cousue ?
Je reste bouche cousue.
Quelle est la chose que vous n'avez jamais faite dans votre carrière ? Jouer des coudes, réagir sur un coup de tête ou prendre vos jambes à votre cou ?
Jouer des coudes.
Votre plus grosse crainte, en avoir plein le dos, devoir vous couper les cheveux en quatre ou que l'on découvre votre talon d'Achille ?
Qu'on découvre mon talon d'Achille.
C'est quoi votre talon d'Achille ?
Ah bah oui.
Justement.
Vous avez vu
le matriarcat ? C'est le matriarcat. Est-ce qu'il est déjà arrivé à Michel Simès de vous casser les pieds, de vous briser le cœur, de vous faire rire à gorge déployée ?
Les trois.
Les trois.
Ouais, les trois.
Bravo ! Oh là là ! C'était super. Devant le succès de ce premier quiz, je vous en propose un deuxième. Cette fois-ci, la réponse est soit les patients, soit vos meilleurs amis.
Vous remarquez qu'elle, en plus, c'est la première fois qu'elle met de la musique dans
oui.
ses quiz.
C'est ultra bossé, oui.
Vous l'avez demandé 18 fois. Oui. Au bout d'un moment, je me suis dit,
parce qu'avant, elle faisait la musique elle-même.
Ouais, ouais.
Ça fait comment ?
Les quiz de Christine.
Oh là là là. Un supplice.
Mais quand j'étais en Thalasso, je me suis beaucoup remise en question.
Ouais.
Voilà. Alors,
trois mois de Thalasso.
Donc, c'était quoi la réponse qu'il faut donner ?
Alors, oui, il faut répondre oui. soit les patients, soit vos meilleurs amis.
D'accord.
Alors, c'est pas grave s'ils vous doivent de l'argent.
Mes meilleurs amis.
Il vaut mieux pour eux qu'ils vous voient le plus rarement possible.
Mes patients.
Ils peuvent tout vous dire.
Mes meilleurs amis.
Vous pouvez tout leur dire.
Mes meilleurs amis.
Ils parlent toujours de ce qui ne va pas.
Mes meilleurs amis.
Quand vous êtes en retard, ils sont vraiment patients.
Les patients.
Il vous est déjà arrivé d'avoir une aventure avec l'un d'entre eux ?
Les deux.
Mes meilleurs amis.
Ah, c'est super, c'est
pas ça. On peut passer de meilleurs amis à aventure ?
Ah, on rebondit toujours là-dessus, nous. Ouais. C'est vrai ? On peut ?
Ouais. Voilà.
Moi, j'ai eu ça.
Pour moi.
J'ai eu ça, ouais.
Ah.
Moi.
Marina Carrère d'Encausse, quels sont vos projets ?
Mes projets, c'est de continuer déjà tout ce que je fais, ce qui m'occupe déjà pas mal. Et puis de continuer, parce que je suis extrêmement têtue à proposer mon émission littéraire que je veux faire depuis très longtemps.
Ça fait très longtemps que vous voulez faire une émission littéraire justement avec votre meilleure amie ?
Voilà, absolument, parce qu'on veut pouvoir parler de livres autrement à la télévision.
Une émission littéraire qui serait quelle durée ?
52 minutes.
Toutes les semaines ?
Oui, très bien. Mais l'idée, c'est de faire plus parler les lecteurs que les écrivains cette fois-ci, pouvoir amener un peu plus les lecteurs au centre de tout ça.
Et vous n'arrivez pas à convaincre ?
Non, tout le monde trouve l'idée très bien, mais il n'y a pas de place, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'horaire. Voilà. Mais bon, on ne sait jamais un jour sur un malentendu.
Et pourquoi, par exemple, vous avez la santé là tous les jours, vous n'avez qu'à faire le cinquième jour une émission littéraire ? Vous le transformez discrètement ?
On le fait déjà un petit peu, puisque Gérard Collard a quand même facilement 10 minutes dans l'émission du vendredi, donc ça, c'est le début de ce que j'aime bien. Mais non, on verra bien un jour, peut-être que ça le fera. Hein.
Ça, c'est vraiment un projet qui vous tient à cœur ?
Oui, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, parce que je trouve que on ne fait pas assez, d'abord parce qu'il y a trop de d'idées arrêtées sur ce qu'est la littérature, sur ce qu'est l'écriture, sur ce qu'est la bonne littérature, et que ça m'horripile, et que je trouve que un cadeau qu'on peut faire aux gamins, aux ados et aux adultes, c'est de leur faire aimer la lecture. Donc voilà, j'ai toujours cette idée d'émission et je continue à proposer.
Et donc ce livre qui vient de sortir aux éditions Pocket, Une femme entre deux mondes, un livre touchant, poignant, sur une histoire assez forte entre deux femmes.
Oui, sur une histoire effectivement de ce que j'aime, hein, de fragilité et de secret, et d'échange, parce que vraiment ces deux femmes vont arriver par leur échange à faire abaisser toutes leurs barrières. Et j'aurais aimé qu'elles puissent avoir une vraie histoire, ces deux femmes. Mais j'allais pas faire un truc...
Ça pourrait être un film, cette histoire.
Ah ben j'adorerais, moi, que ce soit un film.
Bah, lancer un appel.
Ben, s'il y a un scénariste qui est intéressé, un réalisateur, pour lire ce livre et pour acheter les droits, je vous en prie.
Allez.
J'en serais ravie. En plus, je ne me mêle pas du scénario.
Ça part en prod, Marina.
Merci. Hein.
On bat sur le truc.